Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le plus grand succès des romans feuilletons au XIXe siècle. Il faut dire que son auteur, Eugène Sue, avait fait ses preuves avec Les Mystères de Paris, également publié en feuilleton, c'était dans le Journal des Débats. Donc, les lecteurs attendaient Le Juif errant. Et plus d'un siècle plus tard, on attendait, certainement sur France Culture, la diffusion du premier épisode de l'adaptation radiophonique. Nous étions le 27 avril 1976.
Notre abonnement au Constitutionnel est-il renouvelé ?
Oui, ce 25 juin 1844. Ah, nous voilà tranquilles pour 6 mois.
Pas d'interruption à craindre avec Le Juif errant, comme avec Les Mystères de Paris ?
Non, ce ne fut pas la faute de la poste. Non, celle d'Eugène Sue lui-même qui s'était arrêté d'écrire.
Oh, quelle cruauté ! Alors que Fleur de Marie venait de tomber dans les griffes de la Chouette et du maître d'école...
Ah, Eugène Sue ne voulait pas monter la garde, l'administration l'exigeait.
Et que se passa-t-il ?
Comme si tu l'ignorais. Toi qui allais protester devant le Journal des Débats.
Oui, soucieuse du bonheur et de la tranquillité du pays, l'administration céda et le feuilleton reparut. Quelles sont les nouvelles d'aujourd'hui ?
Un tumulte à Narbonne et députation des viticulteurs de l'Hérault auprès du ministre des Finances. Arrestation d'officiers séditieux en Espagne. Anarchie et désordre au Liban. Tout cela est bien triste. Le roman du Juif errant sera-t-il plus gai ?
Difficile à dire. Il commence dans les solitudes terribles, ténébreuses et glacées du pôle Nord.
En pleine canicule de juin, transporté des lecteurs là-bas. Alors c'est sûrement ce qu'on appelle le dépaysement romanesque.
Est-il rien sur la terre qui soit plus surprenant que la grande misère du pauvre Juif errant, que son sort malheureux paraît triste et fâcheux. Son habit tout difforme et très mal arrangé fit croire que cet homme était fort étranger. Portant comme ouvrier un simple tablier. Messieurs, je vous proteste que j'ai bien du malheur. Jamais je ne m'arrête, ni ici ni ailleurs. Par beau mauvais temps, je marche incessamment. De connaître votre âge, nous sommes curieux. À voir votre visage, vous paraissez fort vieux. Vous avez bien 100 ans, vous montrez bien autant. La vieillesse me gêne, j'ai bien 1800 ans. Chose sûre et certaine, je passe encore 30 ans. J'avais 12 ans passés quand Jésus-Christ est né.
Fantastique extrémité des deux bras de la terre, écorché, dentelé, enchevêtré, Les deux points monstrueux s'étreignent et se déchirent. Immobile et muet. Ici, le dernier soubresaut de la Sibérie. Là-bas, l'ultime respiration de l'Amérique. Élan créateur, qui vous détruisez dans l'immense solitude de la fin du monde, vecteur d'effroi et de mort, retournez contre moi vos pointes barbelées. Épouvantable mâchoire de pics et de gouffres glacés, où se désagrègent les continents, écrasez l'éternel vagabond, l'éternel chassé, l'éternel condamné. Oh Jésus, pitié pour Hérodiade, pitié pour Ahasvérus. Pitié pour les coupables qui ne péchèrent que par excès d'amour. Ô Seigneur, le repos, le repos, le repos.
Saint-Michel lui-même raconte la véridique et mémorable conversion de celui qui vous parle, Guignas Moroc, surnommé le prophète. Je suis converti. Moroc l'orgueilleux, Moroc l'idolâtre, fuyez devant les bêtes féroces. Les bêtes féroces trembleront devant Moroc le baptisé. Encore une victoire de l'Église catholique, apostolique et romaine. Encore une conquête des plus aimés de ses fils. Encore un triomphe des sociétaires de Jésus. Et sur cette dernière toile, le spectacle que je présenterai demain à la population de votre estimable village. Car mon tigre de Sibérie, Judas, mon lion d'Arabie, et la mort, la plus terrifiante des panthères noires de Java, tous les trois dont vous entendez les hurlements de rage du fond de ces roulottes de fer, rampant devant moi, obéissant à ma voix, accompliront 1000 acrobaties et se jetteront pour finir à mes genoux devant la croix de notre Seigneur. Voici des Agnus Dei, des médailles, des chapelets achetés. Voici la copie d'une lettre autographe de Jésus-Christ adressée à un fidèle. Voici le récit du miracle de Sainte-Blandine qui apparut à l'infâme Bonaparte la veille de la bataille de Waterloo. Voici des écrits de bienheureux moines prédisant les plus effrayantes calamités pour la France impie révolutionnaire. Achetez un sou.
Les bêtes lui obéissent.
Ah, demain, j'achèterai une médaille. De la viande. Ils mangent de la viande crue.
Alors, Goliath.
Ils sont presque à l'entrée du village, maître Moroc. Le signalement était bon. Les deux jeunes filles sont en deuil. Le cheval est blanc et le vieillard a un bonnet de police bleu. Mm-hmm. Longue houppelande, militaire grise, un énorme chien polaire sur les talons. Ah.
Les voyageurs viendront ici. C'est la seule auberge du pays. Surveille leur installation, Goliath, et viens m'en rendre compte. Allons, ils ne repartiront pas et ces messieurs seront satisfaits de moi. Bon travail, Moroc. Bon travail.
La paix, Judas. Écarte-toi. Calme-toi, la mort.
Ma belle mort. Bientôt, tu auras de l'ouvrage.
Voici donc les voyageurs que le terrible Moroc attend avec tant d'impatience. D'abord deux jeunes filles de 15 ans, des jumelles, roses et blanches, deux ravissantes petites créatures.
Ensuite, un ancien grenadier à cheval, surnommé Dagobert. Lourde moustache grise, large impériale, joue tannée, couleur de brique, épais sourcils noirs, cachant presque deux yeux bleu clair, tête chauve et boucle d'oreille descendant jusqu'au col.
Mais voici que Dagobert s'arrête. Sa tête s'incline et une lourde larme va se perdre dans sa moustache. « Ciel, qu'as-tu, Dagobert ?» s'écrit ensemble Rose et Blanche. « Tu pleures, toi ?»« Ah, mes enfants, » répond Dagobert, « je vais vous chagriner, mais... »
C'est au pied de cet arbre qu'il y a 18 ans, la veille de la bataille de Leipzig, je portais votre père. Il avait deux coups de fusil à la jambe. Quant à moi, la lance d'un Kaiserlich m'avait fait certaine politesse à la poitrine. Épuisés, nous reprenions nos forces lorsque nous fûmes faits prisonniers. Et par qui? Un marquis émigré, colonel au service des Russes. Un Français, dans les rangs de l'ennemi.
Retrouverons-nous notre père à Paris, Dagobert?
Je l'espère, chère Rose, je l'espère.
Et si notre maman est maintenant au ciel, c'est pour mieux veiller sur nous, n'est-ce pas, Dagobert? N'est-ce pas?
Oui, ma Blanche, oui. Mais reprenons-nous, Bigre Bleu! Sommes-nous de vieux grognards, oui ou non?
Nous le sommes, Bigre Bleu, nous le sommes, bon Dagobert. Mais je t'en prie, dis-nous enfin ce que représente cette médaille que maman mit au cou de Rose avant de mourir et sur laquelle tu nous demandes de veiller sans cesse.
Oui, sur une face, je peux lire « Victime de LCDJ, priez pour moi. Paris, le 13 février 1682. »
Et sur l'autre, à Paris, rue Saint-François, numéro 3, dans un siècle et demi, vous serez le 13 février 1832. Priez pour moi.
Oui, mes enfants. Je crois qu'il est maintenant temps que vous sachiez l'histoire de vos parents. Mais voici l'auberge du village. Installons-nous, et ce soir, à la veillée, je vous dirai tout. En attendant, silence dans les rangs. File à droite, droite, en avant, marche. Une, deux.
Prophète Moroc, les petites ont été installées dans la resserre. Le chien est avec elles. Quant à l'homme, si t'as pas à y croire, après avoir déposé la sacoche de cuir dans la chambre des fillettes, il s'est établi sous le porche et un baquet entre les jambes, il savonne. Ouais, une moustache grise qui savonne comme une lavandière.
Où le vieux a-t-il attaché son cheval?
Dans ma vieille remise.
Près des roulottes de fer. Très bien, Goliath. Très bien. Très, très bien. Je veux cette sacoche de cuir.
L'homme et le chien resteront en sentinelle toute la nuit.
Je sais. Quand tout dormira, trouve le moyen d'attirer le chien dehors. Quant à l'homme, je saurai l'éloigner, crois-moi. Alors, tu t'empareras de la sacoche de cuir. Pour l'instant, va te poster dans les broussailles autour de la resserre.
Sans nourrir d'abord les bêtes, elles seront folles furieuses, enragées.
Tant mieux!
Mais, Maître Moroc, vous voulez donc qu'il arrive un malheur ici ce soir?
Un malheur, Pâques! Depuis quand est-ce un malheur d'empêcher des voleurs, des scélérats, des brigands de poursuivre leur coupable chemin?
Quoi? Ces deux petites filles et ce bonhomme tout gris, des voleurs, des scélérats, des brigands?
Il suffit! Obéis ou crains la colère de Moroc le prophète?
Oui, maître.
Sont-ils vraiment criminels? Qu'importe! J'ignore le motif des ordres que je reçois. Seul compte pour moi la position de ceux qui me les donnent. Oh, silence, Moroc. Le bras qui frappe n'a pas de conscience. À tes chefs la puissance. À toi, instrument inerte, la jouissance de l'obéissance. France. Ah, oh, bien, 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 bien. Allons retrouver la lavandière à moustache. Une bonne et stupide querelle, voilà ce qu'il faudrait pour commencer.
Il paraît, camarade, que vous n'avez pas confiance dans les blanchisseuses d'Allemagne.
Je ne vous connais pas et ne veux pas vous connaître. Donnez-moi la paix.
Ah, nous pourrions faire connaissance autour d'un verre de vin si vous étiez plus poli, soldat du savon. Mais oui, approchez, approchez, messieurs les buveurs de l'auberge. Je disais à cet homme qu'un étranger n'a pas le droit d'être insolent avec un honnête chrétien. Nous savions que les soldats de la République et de l'Empire étaient des païens détestés de Dieu. Nous découvrons en plus que ce sont des poltrons. Hein? Voyons, brigand, tu as offensé en moi une créature touchée par la grâce du ciel. Le Seigneur ordonne de soigner son honneur. Que ferais-tu si je te mettais un sabre à la main?
Avec un sabre à la main, je... Je refuserai de me battre.
Ah ! Décidément, c'est un lâche !
Oh, oui, c'est un lâche !
Oh, oui, c'est un homme comme le prophète, ah, un saint homme.
Il demande pardon !
Ah, puisqu'il ne veut pas me rendre raison, conduisons-le chez le bourgmestre. Je veux porter plainte contre lui pour insulte à un honorable sujet du grand électeur.
Oui, c'est ça.
Conduisons-le chez le bourgmestre.
Allez,
allez, allez. Laissez cet homme en paix. Vous voyez bien que ce n'est pas un lâche. Il voyage avec deux enfants. S'il était tué en duel ou emprisonné pour s'être battu, que deviendrait cette petite protégée?
Au contraire, moi je le trouve très courageux de savoir se contenir. Oh, pardon, prophète, mais vous n'avez pas raison.
Merci, messieurs.
Oui. Ah oui, oui, j'avoue que j'ai eu tort. L'accueil de cet homme m'avait irrité. Mais le Seigneur commande l'humilité. Étranger, Maroc vous demande publiquement excuse.
Bien, prophète, voilà qui est parlé. Bonsoir à tous.
Ouais, bonsoir, mon brave.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Toi, le soi-disant prophète, si je te retrouve jamais quand mes fillettes n'auront plus besoin de moi, je te dirai deux mots. Ils ne seront pas longs. Revers et pointe. Maintenant, écarte-toi.
Tu crois m'avoir échappé, maudit français? Ceci n'était que le prologue. Voyons si tu seras plus malin avec Caïn, Judas et la mort.
Tu es pâle, Dagobert, et ta joue tremble. Serais-tu colère?
Non, ce n'est rien, rien. Alors, êtes-vous bien installée?
Oui.
Ah, il s'agit d'être très attentive maintenant. Je vais vous dire des choses très importantes sur votre père et votre mère, mes chers chéris. Votre père, maréchal de France et duc de Ligny, quoique ce titre ne lui fût jamais reconnu par les traîtres qui prirent la place de l'empereur, est le fils de François Simon, ouvrier français. C'est vous dire la noblesse de vos origines. Votre mère était la plus belle, la plus courageuse, la plus loyale des patriotes polonaises. On l'appelait la perle de Varsovie.
Hélas, pauvre maman.
Tout a commencé au pied de cet arbre que je vous montrais tout à l'heure.
On dirait que c'est fichu pour nous deux aujourd'hui, monsieur le maréchal.
Tu as raison. Dagobert,
oui.
J'ai la jambe cassée. Et toi?
Oh, les côtes et la caboche, ça irait encore. Mais j'ai brisé mon sabre et j'ai plus de cartouches. On les reçoit à la crosse?
Non. Nous sommes encerclés et nous fusillerons à distance. Gardons nos carcasses pour l'empereur. Ah, voici l'officier ennemi.
Rendez-vous, messieurs! Vous rendre à un compatriote, ce n'est pas se rendre.
Un renégat qui tourne ses armes contre la patrie n'est plus un Français. C'est un misérable félon.
Prisonnier, nous sommes conduits à Varsovie. Votre père y rencontre votre mère, Beaux, braves, fiers tous les deux. Ils s'aiment, c'est normal.
C'est la plus belle histoire de la Terre, Dagobert.
Bon, l'empereur abdique. Il est à l'île d'Elbe. Votre père lui écrit « Dois-je vous rejoindre, sire ?»« Pas tout de suite, » répond Napoléon. « Mais surveille les nouvelles. En attendant, sois heureux avec ta belle polonaise et frotte les oreilles à ce vieux pince sans rire de Dagobert. »
L'empereur te connaissait, Dagobert ?
Il m'a décoré un wagram. Lui et le peuple, nous comprenions très bien. Donc, la nouvelle qu'il fallait attendre, c'était celle du retour de Napoléon en France. Sitôt que votre père l'apprend, il se jette à cheval, échappe aux Russes, déjoue les Prussiens, trompe les Autrichiens, et arrive à temps pour... Waterloo. Dernier malheur. L'Empire s'effondre, l'Empereur s'est retiré à Rochefort, votre père veut aller le rejoindre, mais à Angers...
Nous devons faire attention, monsieur le maréchal. Les Autrichiens patrouillent sur les deux bords de la Loire, nous laisserons porter par le courant.
Halt !
Malheur, nous sommes découverts.
Merci, mon brave. Tu as fait de ton mieux.
Ne bougez pas ! Vous êtes dans la ligne de nos fusils ! Non, ne vous jetez pas à l'eau ! Voyez ces deux barques, elles sont chargées de nos soldats !
Je suis un officier français ! Laissez aller cet homme ! Il ne m'a aidé que sous la menace ! Et conduisez-moi à votre colonel.
Suivez-nous, monsieur l'officier.
Mon colonel, monsieur le maréchal Simon, duc de Ligny. Vos soldats et les nôtres se battent farouchement et loyalement depuis 20 ans. Mais maintenant, la guerre est finie. Sans haine, sans aucun esprit de revanche. Je veux simplement retrouver l'empereur à Rochefort, d'où il pense passer en Amérique. Au temps de la gloire et des victoires, il était mon ami. Dans les jours d'accablement et de solitude... Je veux être son serviteur. Je vous supplie de me laisser passer la Loire. D'un soldat à un autre soldat, cette prière peut être entendue. Mais vous relevez la tête. La lumière tombe sur votre visage et...
Enfer ! Le français de l'Eltic ! Le traître des Graniques qui sert et commande chez l'ennemi !
Je n'ai qu'un ennemi. Le drapeau tricolore, l'exécrable symbole de la révolution populaire.
Fais-moi fusiller, Dégrigny. Tu es ce que je hais le plus au monde.
Vous pourriez repartir libre, monsieur de Ligny, et aller vous perdre avec votre maître corse, mais à une condition. Écrivez en Pologne. Écrivez que l'on vous oublie et que l'on ne vous rejoigne jamais au Nouveau Monde. Écrivez une lettre que je ferai parvenir moi-même. Écrivez une lettre de rupture à Eva Doransky-Renpont.
Misérable ! Tu as osé lever ton regard sur la perle de Varsovie !
Je suis vainqueur, Simon. Tu dois disparaître.
Soit. Donne-moi une plume et du papier. Je vais écrire.
À la bonne heure, te voilà raisonnable.
Ah ! Ah ! Voiture, les gars ! Ta porte est verrouillée ! Nous sommes enfermés ! Et j'ai ce sabre à la main ! Évite de mourir comme un goré égorgé ! Prends le tien et en garde ! Allons, en garde ! En garde ! Voilà le traître avec mon épée dans le corps. Quant à moi, j'ai reçu un sacré revers dans l'épaule. Bon, fuyons à travers cette fenêtre. Fichu pour fichu.
«
suis un officier de l'empereur. Je viens de me battre contre un blanc. Je suis blessé. Cachez-moi, je n'en puis plus.
Et votre père, blessé, et de plus recherché par les assassins royalistes, doit se cacher. Quand il peut enfin se risquer dehors, Napoléon est en route pour Sainte-Hélène. Il n'y a plus rien à faire. Alors, le maréchal Simon, déguisé en colporteur et en vendeur d'almanachs et de canards, retraverse toute l'Europe, retrouve votre maman à Varsovie, et bientôt vous venez au monde.
Enfin, nous voilà!
Eh oui, mes petites fleurs, vous voilà. Mais le bonheur de vos parents sera court. Généreuse patriote, votre mère ne peut supporter de voir sa chère Pologne étouffée un peu plus chaque jour sous le despotisme des Russes. Elle entre avec son époux dans une conspiration. Hélas, ils sont bientôt découverts. Un matin, les Cosaques arrêtent le maréchal. On le charge de chaînes. Le lendemain, votre mère vous portant sur ses bras et moi, nous sommes déportés en Sibérie.
Et nous y restâmes 15 ans, isolés, presque prisonniers, sans aucune nouvelle du monde extérieur. Croyant notre père mort, quand il y a 5 mois... Oh, Dagobert ! Dagobert, au secours ! J'ai vu une main énorme passer à travers le carreau de la lucarne. Oh, ma sœur, j'ai peur, peur.
Dors, dors, à ma joie. Saute dans le jardin, mon garçon. S'il y a quelqu'un dans ces broussailles, tu l'auras vite débusqué. Allez. Oh, ce n'est rien. Non, la barre du volet aura heurté la lucarne. Oh, cette couverture va arrêter le vent.
Vous tenez le chien, maître Moroc?
Oui. Il a essayé de m'arracher le bras, mais j'ai toujours ma cotte de maille sous la casaque. Allez, entoure-lui la tête avec ce sac. Enferme-le dans une cave et reviens prendre ta faction. Quand tu entendras des cris et des hurlements, agis, n'aie crainte. Les petites seront seules. Précipite-toi dans la chambre et la sacoche. La sacoche. Sur ta vie, il me la faut.
Isaac Lacedème, pour nom me fut donné. Né dans Jérusalem, ville bien renommée. Oui, c'est moi, mes enfants, qui suis le juif errant. C'est ma cruelle audace qui cause mon malheur. Si mon crime s'efface, j'aurai bien du bonheur. J'ai traité mon sauveur avec trop de rigueur. Allant sur le calvaire, Jésus avec sa croix me dit en débonnaire, passant devant chez moi. Veux-tu bien, mon ami, que je repose ici? Moi, cruel et rebelle, je lui dis sans raison, par âme criminelle, de devant ma maison. Avance et marche donc, car tu me fais affront. Jésus, la bonté même, me dit en soupirant, tu marcheras toi-même pendant plus de 1000 ans. Le dernier jugement finira ton tourment.
Eh oui, tremblants et stupéfaits auditeurs, le cadenas s'est refermé sur vous.
Et vous voilà pour 5 semaines attaché au pas du pauvre Ahas Verus. 25 jours durant s'élèvera sa douloureuse mélopée et des milliers de fois couleront vos larmes. Aujourd'hui, c'était Moroc le prophète. Premier épisode du Juif errant, un feuilleton français, culturel et populaire de Maurice Sarfati, d'après l'œuvre d'Eugène Sue. Avec Séverine, Catherine Laborde, Henri Cerzniak, Gérard Thirion, Maurice Sarfati et François Vibert et Gaston Vacca et Robert Murzeau et Jean Levray et Renaud Marie et Philippe Clay. Bruitage de Joël Noël, chef opérateur du son Michel Ristich, assisté de Pierre Laya, mise en scène Bronislav Horowicz.
25 épisodes sur France Culture et des dizaines d'épisodes pour le roman d'Eugène Sue, publié en feuilleton dans le Constitutionnel de juin 1844 à août 1845. La suite est donc à lire et non pas à entendre. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 27 avril 1976 et vous pourrez le réécouter en ligne ou le télécharger durant un an sur le site franceculture.fr à la rubrique des Nuits de France Culture.
Je connais les brumes claires, la neige rose des matins d'hiver. Je pourrais te retrouver. L'oiseau s'est envolé, et moi jamais je ne le trouverai, car j'ai vu.